Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec. Bon jeudi, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Elle était beaucoup plus ensoleillée que celle d'hier où on a eu de la neige. On se sentait pratiquement dans la transition entre l'automne et l'hiver. Aujourd'hui, on sait qu'on est vers le bon chemin. On s'en va vers l'été tranquillement, mais sûrement, on n'abandonne pas. Sujet très léger, mais que tout le monde apprécie. Et surtout, à chacun de ses passages, on parle du merveilleux monde de l'automobile avec Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile. Salut, Samuel!
Allô, allô!
Hey, ça va donc bien tes affaires? À chaque fois, je te dis « Sam! » Les auditeurs de Boulevard veulent t'entendre. Hey Yann, mon horaire est plein.
Et je veux pas être ce gars-là, par contre. Hein. Je veux pas être ce gars-là parce que ça me fait vraiment plaisir de venir jaser avec toi. Je prends toujours du temps pour le faire, mais oui, ouais. Un horaire bien chargé. Donc,
Tu veux pas être ce gars-là, mais moi, je suis content de ce qui t'arrive parce que c'est amplement mérité. Puis, tu sais, t'as ton entreprise, tu gères tes affaires, t'as tes petites émissions, tu fais tes tournages. Sérieux, de voir que ça se développe pour toi, je suis très fier de toi. Puis, c'est pas à cause de personne, sauf de toi.
Mais c'est smart. Merci, c'est fin, mais écoute, j'espère que ça va continuer maintenant. C'est ça mon objectif.
Là, où est-ce qu'on peut te voir puis t'entendre? On peut t'entendre ces zones de boulevard, mais on peut te voir où et t'entendre où?
Grosse affaire qui s'en vient, là, mais dimanche cette semaine, je vais passer dans RPM+. Okay. Pour la première fois de ma vie, je vais passer à la télévision.
Ils ont accepté, finalement.
Ben, c'est eux qui m'ont proposé d'aller faire une chronique en tant que journaliste automobile là-bas. Fait que j'étais allé avec Pierre Michaud puis Luc-Olivier Chamberlain, jaser avec eux durant le show. Fait que c'est ma première... C'est comme un peu un rêve de ticu qui se passait, là, honnêtement, là, tu sais, de m'asseoir dans le studio avec les gars d'RPM.
T'es-tu fait te maquiller avant?
Oh ouais, la vraie affaire. Là. Puis là, pour vrai, j'ai eu un petit moment de... Ça arrive-tu pour vrai, ça? Là? Honnêtement, j'y crois pas encore, puis j'ai hâte de voir dimanche, de me voir à télé.
Tu sais, on a toujours le sentiment d'imposteur. Moi, j'ai travaillé pour Pierre Michaud, de même pas s'en souvenir. J'avais remplacé un gars qui faisait les sports. Pierre Michaud, il avait RPM, mais il avait décidé aussi d'aider TQS dans le temps pour faire une petite émission style Salut, bonjour, mais en beaucoup plus simple, où il y avait Alain Jean-Marie qui est un animateur de Montréal qui travaillait à Rhythm FM. Je sais pas ce qu'il fait Alain Jean-Marie, mais il y avait Alain Jean-Marie, il y avait une télé, puis il faisait une tournée d'actualité. Puis là, il y avait un gars de sport qui venait une fois de temps en temps pour parler des résultats de la veille. Puis c'était Martin Sirois dans le temps qui faisait cette job-là. Martin a dû prendre quelques jours de congé, puis on dit « Hey, on aurait besoin de quelqu'un rapidement, tu peux-tu venir? » Moi, je connais rien au sport à part le Canadien.
Ben là, oui,
tu me parles des Oilers, là, à part Connor McDavid puis Dreisaitl. Je dis « Ok, c'est beau, je vais y aller. » Quand j'étais arrivé là à 2h30, 3h du matin, parce que c'était un show du matin, puis que j'ai vu la maquilleuse, puis qu'elle m'a dit « Tu vas venir t'asseoir ici. » Sérieux, c'est pas naturel chez l'homme de se maquiller. Là. En tout cas, du moins, la première fois, j'ai pogné un 2 minutes, puis c'est pas la même chose quand on est dans un studio de radio. On a l'impression qu'on est avec nos chums. C'est une conversation autour d'un café ou d'une bière. Quand t'es dans un studio de télé, t'as plein de choses à penser, en plus des choses qu'il faut que tu dises aux téléspectateurs. Puis moi, quand je te regarde, je te vois, je vois tes yeux, je sais que t'es captif, je sais que t'es attentif, à part quand tu te liches les lèvres ou là, j'ai un malaise, mais... Quand je regarde...
J'ai pas si vrai que ça, Yann.
Quand je regarde la lentille de la caméra, je perds tout.
Ouais.
Je suis pas capable.
Je comprends, mais vois-tu, l'exercice, fallait pas que je regarde la caméra parce que je parlais, c'est une conversation à trois qu'on fait.
Ouais.
La seule, le bon défi que je pense que j'ai eu, c'est que c'est des bancs, c'est des petits bancs comme de bar, des tabourets de bar avec un petit dossier.
Oui.
Mais tu sais, je suis un bon bonhomme.
T'es grand.
Je suis grand et assez gros. Là.
Ouais.
Et donc, m'asseoir sur ce petit banc-là, j'ai hâte de voir ma posture.
Rentrer le ventre.
Je devrais avoir, probablement que j'ai le dos courbé, tous les kinésiologues de Québec vont me dire que ça n'a pas de bon sens, mon affaire.
Ouais.
Mais c'était pas évident à m'asseoir. Fait que je sais pas de quoi je vais... En tout cas, regarde, on verra bien rendu là, mais ça a vraiment bien été l'enregistrement. Ça a été vraiment un beau trip de vivre ça.
Fait qu'on va voir ça quand, si on veut t'écouter?
Il y a dimanche que ça va jouer, puis il y en a deux autres qui s'en viennent aussi. On avait trois chroniques ensemble pour finir la saison de RPM+, qui est l'émission où là, on répond aux questions des gens. Je trouve ça le fun. Tu sais, une émission de service de même, là,
ben
de
oui.
rendre service aux gens.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, ça.
Ben moi, c'est pour ça que je le fais aussi.
C'est
100%. C'est la raison pour laquelle je suis là.
Je veux dire, il y a des gens qui ont voulu faire ce métier-là, ils se sont trompés parce qu'ils voulaient s'auto-promouvoir constamment. Mmh. Puis la télé ou la radio, tu peux pas t'auto-promouvoir. Faut que tu y ailles pour ton public. Puis, tu sais, à chaque fois que tu passes ici, j'ai tout le temps des bons commentaires. Puis même quand tu passes dans l'émission à Denis, on les voit, les messages textes qui rentrent, c'est tout le temps des bons commentaires. Tu fais ce métier-là pour les bonnes raisons, puis c'est le fun de t'avoir. Hey, on a plein de choses à jaser ce soir, toi et moi. On va parler de véhicules électriques, pas trop longtemps, parce qu'on veut pas pas achaler les auditeurs avec ça, mais il y a eu un sondage qui s'est fait à la grandeur du Canada. C'est Auto Hebdo qui a fait ça.
Ouais.
Puis on s'est posé la question, on en est rendu où avec les véhicules électriques? Est-ce que c'était les résultats auxquels tu t'attendais?
Oui et non. Okay? Ça fait 2 ans qu'Auto Hebdo fait ce sondage-là. La manière qui est faite, c'est qu'ils vont vraiment couvrir la question pour les conducteurs de véhicules à essence. Donc, l'idée, c'est de dire, si vous êtes un propriétaire d'un véhicule à moteur thermique, est-ce que vous considéreriez changer votre véhicule pour une voiture électrique? Quand on a fait ce premier sondage-là en 2022, on était à 68 %.
Wow.
Donc, ça allait bien quand même. On dit, crime au Canada, les gens ont de l'intérêt. On voit qu'on est plus que la moitié de la population selon un sondage. Il faut faire attention en passant, là, ça reste que c'est un sondage. Mais quand même, 68 %, on a une tendance qui se dessine clairement. En 2023, on est tombé à 56 %. Donc, quand même une chute de 12 %. On a connu aussi le retour un peu du balancier avec l'inflation qui a cogné d'une shot, puis le prix des voitures électriques qui était assez élevé. Ça ne m'a pas tant surpris. Là, par contre, on sait que les taux d'intérêt dans certains modèles se stabilisent un peu dans l'automobile actuellement. Il y a des voitures qui ont des taux d'intérêt un petit peu plus avantageux que d'autres. Et dans l'univers électrique, c'est pas rare de voir des taux d'intérêt avantageux dans certains produits. Il y a encore les subventions pleines qui existent, qui vont disparaître bientôt. En sachant tout ça, je me disais, tu sais, 2024 est une année où est-ce que théoriquement, on devrait voir une espèce de « moi, je veux pas manquer la subvention, donc oui, je vais bouger, je vais aller me chercher une voiture électrique ». Les chiffres de tout ça sont pas encore clairs et nets, mais ce qu'on voit, par contre, c'est que l'intention d'achat est rendue à 46 %.
Donc, ça descend.
D'accord, de 10 % de plus. C'est 22 % de moins qu'en 2022. Donc, on a perdu 22 points. Ce que je trouve extrêmement élevé comme chute.
Vraiment.
Les raisons évoquées par les gens, puis je pense que c'est des raisons qui vont te rejoindre dans le sens que c'est plein de bon sens, là, honnêtement. Là. Les gens disent, ben tu sais, nous, il y a le volet l'autonomie limitée. T'sais, les gens, des fois aussi, on se dit, ben là, une voiture qui donne à peu près 300 km d'autonomie, je n'aurais pas assez.
Ouais, mais moi, quand je parle avec des gens comme toi, ça fait même plus partie de mes inquiétudes. Puis, ouais. Je te parlais de Bernier Auto aussi, la première fois où tu m'as parlé de ça, le kilométrage que tu peux faire avec un véhicule électrique. On a tendance à dire qu'à chaque jour, on monte à Montréal.
C'est ça.
La réalité, c'est
non, mais
pas ça.
C'est exactement ça.
Donc, moi, je suis ouvert aux véhicules électriques. Je trouve que c'est une belle technologie. Puis, ça va s'améliorer dans les prochaines années, j'en suis persuadé. Mais si tu avais à me poser la question, mettons que j'avais répondu à Auto Hebdo, moi, ça aurait été plus un véhicule essence et électrique.
Ben écoute...
Un hybride.
Écoute, tu réponds exactement à ce qui se passe, parce que Auto Hebdo continue ce sondage-là, bien sûr, en allant chercher d'autres raisons, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et les gens, c'est ça, sont revenus beaucoup sur les éléments de bornes de recharge, à quel point ça peut être tannant, les bornes de recharge, le coût plus élevé de ces voitures-là aussi. Puis un élément que j'ai trouvé tellement intéressant, mais c'est les craintes. Les gens ont des craintes que les véhicules électriques soient mal adaptés aux hivers du Québec.
Est-ce que c'est le cas?
Bien, moi, je trouve que les constructeurs font leur possible, OK? Parce que c'est clair que c'est des véhicules qui ont été construits initialement dans des pays peut-être plus au sud, c'est des voitures de la Californie, des voitures européennes, des voitures chinoises, des voitures coréennes. Non, les voitures électriques ne sont pas nécessairement bâties que pour le climat nordique. Par contre, est-ce qu'ils sont pire bâties que d'autres voitures qu'on achète qui ont été aussi pensées en Corée ou qui ont été aussi pensées ailleurs dans le monde? Je crois pas. Tu sais, il y en a des véhicules... à essence thermique qui n'ont aucune caractéristique hivernale, mais on dirait qu'on se pose moins cette crainte-là. Tandis que la voiture électrique, comme c'est une nouvelle technologie, les gens ont peur de se dire, OK, là, si ça n'a pas été pensé pour l'hiver, ça se peut-tu que j'ai des problèmes avec ce véhicule-là dans un an ou deux, puis que là, à cause de l'hiver, mon véhicule marche moins bien ou que ses performances en hiver soient problématiques. Il existe une panoplie d'options pour être sûr et certain que ton véhicule fonctionne bien, même en hiver, quand il est électrique. Tu peux, par exemple, le préconditionner avant de partir de chez vous, ce qui veut dire que lorsqu'il est connecté à ta maison, avant que tu partes le matin, tu coules ton café, tu décolles ton auto avec ton téléphone intelligent et le véhicule va se chauffer, va préparer la batterie aussi à partir de la maison. Donc, il va comme se réchauffer à l'interne et à l'externe. Et quand toi, t'embarques, le véhicule, il est chaud et t'as pris 0 % de la batterie. T'as chauffé l'ensemble du véhicule avec le courant de ta maison.
Ouais.
Donc, ça, c'est une manière de travailler avec la technologie pour justement améliorer l'expérience en hiver. Est-ce que les véhicules électriques sont parfaits pour l'hiver? Non. Est-ce que la technologie va s'améliorer? Assurément.
Ben oui, donc, mais c'est ça. Moi, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit un hybride avec un bon prix là, qui me convient avec mes moyens puis mes besoins. C'est sûr que ce sera probablement dans mes prochains achats, dans les prochaines années, en fait.
Ben, c'est tout comme 62 % des Canadiens.
Ouais.
62 % des Canadiens disent qu'ils achèteraient un hybride avant un électrique. C'est 10 % de plus que 2023. Là. Donc, les gens ont tendance à prendre leur idée l'idée d'électrique, de l'amener vers le monde de l'hybride. Même l'hybride rechargeable aussi a gagné 6 points. Il est passé de 54 % d'intention d'achat à 60 %. Donc, on voit que les technologies hybrides gagnent en popularité dans l'intention du public, du moins. Mais même les constructeurs. Tu sais, GM, ça va être un petit coup dans les jambes, là, pas longtemps. Là. GM, en 2021, qui les grandes annonces, les fanfares, les médias du monde entier étaient là. C'est terminé. GM enlève les voitures hybrides. On enlève la Chevrolet Volt. On enlève tous nos produits hybrides de notre gamme pour se concentrer uniquement dans le 100 % électrique parce que nous, on va réussir à faire cette transition-là. Et cette année, en début d'année 2024, la présidente de GM a annoncé le retour des véhicules hybrides dans la gamme.
Ah ben!
Et là, d'un coup, l'ensemble des produits vont devenir hybrides. On garde encore l'objectif d'électrifier l'ensemble de la gamme. C'est toujours ça quand même l'idée derrière. Mais pour faire une transition mieux adaptée à ce que les gens veulent, GM a fait un gros pas de recul et il dit non, finalement, on va revenir avec des hybrides. Fait on voit que l'hybride gagne cette espèce de transition-là.
Samuel Tremblay-Michaud, je veux faire un peu de politique avec toi. Brossons donc un peu de marde. Ça se peut-tu que l'attitude des gouvernements peut faire en sorte qu'on soit peut-être moins intéressé par les véhicules électriques, dans le sens où on nous avait dit, 2035, c'est l'objectif qu'on a, il n'y a plus un véhicule à essence qui va se vendre sur notre territoire. Puis là, finalement, dans les derniers mois, c'est garder les subventions pour les véhicules électriques, on enlève ça. Puis en passant, ça serait-il possible de laver votre vaisselle la nuit? En passant, l'électricité, on commence à manquer. L'attitude des politiciens y est pour beaucoup aussi. Je veux dire, si on avait de l'électricité à n'en plus finir, je pense que Pierre Fitzgibbon n'aurait pas enlevé les subventions qui profitaient aux gens peut-être de la classe moyenne élevée à classe moyenne riche. Mais je pense que l'attitude des gouvernements, que ce soit le fédéral ou le provincial, y est pour beaucoup dans les décisions des gens.
Je pense que ça a amené beaucoup de gens sceptiques.
Ben là...
les gens ont commencé énormément sceptique avec les objectifs que les gouvernements se sont fixés.
Ouais.
Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis. Il y a des sondages, dont celui d'Ottawa, qui dit que 75 % des Canadiens ne croient pas aux objectifs du gouvernement fédéral en termes d'émissions polluantes puis en termes de transition énergétique. C'est-à-dire qu'il y a 75 % de la population qui dit à Justin Trudeau, « Hey, tes politiques de 100 % électrique dans le camion, dans le véhicule particulier, on y croit pas. » On y croit pas qu'en 2035, tout le monde va rouler en électrique. T'sais. C'est quand même un pourcentage qui est extrêmement élevé. Il y a un manque de confiance maintenant qui se dégage chez nous les gens. Mm-hmm. On n'a plus confiance en ces espèces d'objectifs-là qui, pourtant, nous reste encore 11 ans avant d'arriver là. T'sais. Puis quand je regarde les dernières années de l'évolution des modèles électriques, si on ajoute 11 ans de plus, il faut se préparer avec des infrastructures, avec des modèles plus abordables. Tesla n'arrête pas de dire qu'ils vont leur fameux véhicule à 25 000 $ US électrique va arriver sous peu. Là. Ils n'arrêtent pas d'en parler comme si c'était le pain tranché. Mais j'ai hâte de voir, je vais le croire quand je vais le voir.
Tu parles de Tesla?
Tesla parle d'un modèle 2, là, comme une espèce de petite voiture.
Ils m'ont menti avec le Cybertruck. Moi, Tesla, c'est fini.
Ah, ils ont fait ça, puis les investisseurs n'aiment plus ça. Là. Investisseurs Tesla, de ce temps-ci, le Tesla, ça va pas bien. Là. On a annoncé quand même une coupe de 10 % des effectifs mondiaux. Là. C'est 14 000 personnes à travers le monde qui vont perdre leur job chez Tesla. Es-tu
sérieux?
Oui, ouais, vraiment. Là. Puis on est en train de se faire concurrencer beaucoup par les produits chinois. La Chine est un marché extrêmement important pour Tesla. Des constructeurs comme BYD, espèce de géant automobile chinois qui arrive avec des solutions énergétiques qui sont très intéressantes puis moins dispendieuses. Ça joue dans les pattes de Tesla actuellement. L'entreprise est en train de revoir certaines stratégies. Mais il y a un doute qui a plané autour de la fameuse Tesla Model 2 dans les derniers mois. Tesla, il y avait des rumeurs, il y a certains médias américains qui rapportaient que c'est fini le projet de la voiture à 25 000 $. Tesla a enterré ça. L'action a chuté un peu rapidement. On a fait des annonces pour dire non, c'est pas mort ce projet-là. Ça va revenir. Fait que vous voyez un peu, là, c'est mélangeant, ça donne mal à la tête. C'est comme un espèce de dossier qui est étourdissant. Puis c'est ça que je trouve le plus fâchant, moi. Tu sais, pour croire aux gens sceptiques, j'en fais partie des fois à cause de ça. C'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à trouver une recette où un véhicule électrique va devenir réellement abordable. Et quand je parle de réellement abordable, là, c'est réellement abordable. Et dernièrement, je prenais mon annuel de l'automobile, là, le 2016. Juste parce que j'avais envie de checker des choses. Des fois, j'aime ça. T'sais.
T'es bizarre.
Oui, j'ai une bibliothèque de guides de même chez nous.
Tes vendredis soirs ne sont pas les mêmes que les miens.
Non, mais avec un petit scotch, c'est le fun. Je checkais des choses. Je me disais, hey, c'est cool. T'sais. Puis je regardais, je suis tombé sur la Kia Soul. Tu sais comment ça coûtait une Kia Soul neuve en 2016? Flambant neuve, comme sortie du crate.
19 000.
5 ans, 100 000 km de garantie, moteur 2 litres automatique, Bluetooth, siège chauffant, tout ce que tu veux à l'intérieur, là, c'était 16 000 $. Hey, 16 000 $ une voiture neuve. Ben aujourd'hui, la Kia Soul va commencer plus autour de 21 000 22 000. Mais l'ensemble de l'industrie est tellement rendu élevé qu'on dit que s'acheter une voiture électrique à 45 000 50 000 $ avec les subventions, c'est quasiment rendu normal de le faire.
Hey, je suis allé voir mes actions de Tesla parce que tu m'as stressé. C'est un scandale.
C'est un scandale, hein?
Ben, je les avais achetés pas cher là, quand c'était parti. Je pense que j'avais acheté ça à 18$. Là, c'est rendu à 168 et 59. Fait que j'ai fait 6,46 aujourd'hui.
Wow.
Pour ceux que ça intéresse. Mais n'en demeure pas moins qu'ils regardent sur un an. Pente descendante.
Exactement. Puis
sur trois mois, pente descendante.
Je suis désolé, il fait beau aujourd'hui en plus. Hein, je voulais pas t'amener une nouvelle nuageuse. Là,
mais... sur cinq jours, on n'est pas si pire. Mais sur trois mois, pente descendante, ça va pas bien.
Vois-tu, là, quelques jours, Tesla a annoncé le retour du modèle à 25 000. Donc là, on voit que la bourse suit beaucoup ce qui se passe.
Ouais.
On est vraiment à l'écoute parce que c'est vraiment un enjeu. Puis, tu sais. Je suis comme un peu des fois découragé. Des fois, ce que je me rends compte, c'est quand les gens viennent me parler des fois pour des conseils automobiles, je me mets trop vite dans un chapeau de conseiller financier. Parce que, puis c'est pas ma job, tu sais, je suis pas conseiller financier. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais des fois, je regarde des scénarios de financement sur des véhicules ou des gens qui me disent, ouais, j'ai un mariage qui s'en vient, je veux hypothéquer ici, là, j'ai telle affaire. Je pense me prendre un prêt, un véhicule sur 7 ans usagé. Ça me coûtait comme 600$ par mois sur 7 ans. Puis là, le véhicule, le monsieur me le fait, il est 27 000, ça a de l'allure, je trouve. Puis là, j'ai dit, un peu, là, on va calculer ton taux de financement à 13%, on va calculer tes taxes que tu vas mettre dessus. T'es rendu à un truck qui coûte 44 000 au bout de la ligne. Quand tu calcules toutes tes patentes, là, ton véhicule coûte pas 27, il te coûte 44 000 $ là. Et 44 000 à l'époque, tu rentrais chez Audi, là, tu sortais Audi A4 flambant neuf. Puis à l'époque, c'est pas là, 25 ans. Là. C'est là, avant la pandémie, là, c'était des choses qui arrivaient. Là.
Mais sans vouloir insulter tout le monde, là, je pense que je vais insulter une bonne partie de la population, on s'en excuse d'avance, mais t'achètes un véhicule à 100 000, puis tu leur dis, hey, savez-vous quoi, c'est 5 % le taux d'intérêt, okay? Ce qui serait un crise de bon taux d'intérêt. Là. 5 % taux d'intérêt sur un véhicule de 100 000, pose ça aux questions. Comment ça te revient à combien, ce véhicule-là? Ils vont tous te dire 105 000.
Ouais, non, je sais. je sais.
C'est quoi, man? T'es en secondaire 2, a été les 10 plus belles années de ta vie, quoi?
Mais l'affaire, c'est que ça me fait capoter actuellement. Puis on est comme en train de mettre une barre de normalisation, comme si c'était normal de s'acheter un VUS à 44 000 $ usagé, financé sur 7 ans. Puis là, des fois, les gens, dans le fond, je me rends compte, ils m'écrivent juste pour savoir si j'aime ou non le véhicule. Ils veulent pas m'entendre dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, comme là, je m'excuse, mais t'as pas les moyens?
Non.
T'as pas les moyens. Là. À ce prix-là, avec le financement que tu vas te mettre, si un jour le véhicule brise dans le mois, là, ton paiement de 600$ par mois, il va passer encore. T'es-tu capable de te remettre un 600 de réparation? Parce que si ça arrive, c'est quoi? Le char, il est dans le cours, t'as un paiement qui passe puis il roule plus. C'est parce qu'à ces prix-là, quand t'as pas les finances ou les reins assez solides pour subvenir à ces besoins-là puis que t'accotes un budget, c'est parce que t'as pas les moyens. Puis, tu sais, des fois, j'ai envie de péter des ballons, là. Des fois, de ces sites, là, je vous dis, j'étais un peu aigre quand les gens m'écrivent parce que je comme ça. Il faut que ça arrête. Il faut qu'on arrête de se surendetter comme ça dans l'automobile parce qu'à un moment donné, si on veut que le marché ralentisse, ben, il faut que les gens arrêtent de s'endetter de manière assez fulgurante.
Moi, j'ai toujours eu des petits trucks usagés, puis j'ai toujours acheté des petites voitures usagées. Mais regarde, là, présentement, il faut que je m'achète des pneus d'été pour mon Wrangler.
Ça a monté, hein?
Ben là, il faut que je mette 2500 là-dessus. J'ai pas fait mon changement d'huile. Tu dis, ça va, ouais, quand ça passe dans le compte, ça, tu fais un méchant saut. Mais cela dit, moi, j'aime les futuristes, les gens qui me parlent du futur. J'aime les ingénieurs aussi qui sont spécialisés puis qui peuvent me dire, voici les véhicules électriques, ça va servir à quoi. Dernièrement, j'ai intercepté une discussion, je m'en rappelle pas, j'ai vu ça dans les médias. Je saurais pas dire le média, peut-être que tu sauras me le spécifier peut-être un peu plus. Mais le gars disait que le jour où tous les véhicules seront électriques, ben Hydro-Québec va être capable de piger dans les batteries des véhicules électrique pour essayer de répartir l'électricité un peu partout. Je trouvais ça formidable, mais en même temps, je me disais, tabarouette, c'est un step supplémentaire. T'es Hydro-Québec qui va venir prendre une partie de ma charge de batterie pour redistribuer ça ailleurs. Tu sais, moi, je trippe à les entendre. Je comprends rien, mais je trippe à les entendre, puis je me dis, eh boy, on va-tu réussir à faire du Québec une grosse batterie où, quand il y aura des besoins quelque part, on sera capable de renvoyer l'électricité de ma batterie de voiture jusqu'à Victoriaville, mettons, où ils en ont de besoin. Eux autres, ils parlent de ça. Ils trouvent ça franchement intéressant, mais concrètement, pas sûr que ça fonctionne.
Bien, j'ai hâte de voir la réponse des gens. Parce que, tu sais, il existe une théorie, OK? Il y a des gens qui ont des théories. Puis là, je mets un petit warning au départ de ça. C'est pas une théorie que j'endosse, là. C'est une théorie que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on voit passer un peu. Mais il y a des gens qui voient la voiture électrique comme une manière de s'enlever des libertés. que tu sais, vu que tu as une voiture électrique, tu as souvent moins de distance que tu peux parcourir. C'est peut-être un petit peu plus compliqué de te recharger aussi. Donc, il y a des gens qui voient l'idée de la voiture électrique comme un espèce d'outil pour s'enlever de la liberté et avoir moins accès à faire ce qu'on veut. D'être limité à un certain périmètre où est-ce qu'on peut circuler. Puis, tu sais, là, comme je vous dis, j'endose pas ça parce qu'au bout de la ligne, l'essence, là, si on met des règlements sur la livraison du gaz dans les stations-service puis qu'on coupe à gauche puis à droite, le même scénario pourrait arriver. Puis c'est pas des choses qui sont arrivées. Je pense que la voiture électrique, c'est juste un véhicule de transition qui fait vraiment jaser. T'sais, les gens ont beaucoup de craintes envers ce véhicule-là. Et là, il faut pas mélanger toutes les choses. Mais là, si tu t'en vas dire à des gens, ça se peut qu'on prenne le jus que tu t'es mis dans ton auto pour recharger l'état. Écoute, j'ai de la misère à croire que ça va passer comme sans révolution. j'ai de la misère à croire. Par contre, est-ce que je trouve que c'est une excellente idée? Ben oui, waouh, ça met le fun, on partage l'énergie ensemble. On trouve une manière de tout le monde avoir une infrastructure qui se tient debout. On donne l'énergie aux bons endroits pour être sûr qu'on n'en manque pas. Il y a des gens d'ailleurs, justement qu'on dérive là-dessus, là, mais il y a des gens qui... achètent des véhicules électriques et qui sont très contents de l'avoir fait, d'avoir vendu leur génératrice, puis de s'être dit, moi, au moins, mon véhicule, si je manque de courant chez nous, là, je peux connecter mon véhicule à ma maison et faire rouler ma maison sur l'énergie de mon véhicule. Puis ça, c'est des trucs qu'on voit de plus en plus. Il y a les Ioniq 5 de Hyundai font ça, les F-150 Lightning aussi. C'est des produits que c'est quand même vraiment efficace. Tu peux rouler 2-3 jours sur la batterie du véhicule, puis le véhicule va arrêter juste avant de manquer de batterie, mais avoir assez de range pour se rendre à une autre borne de recharge environnante.
OK. Wow, c'est intelligent.
C'est vraiment bien fait. Même pour le camping, tu pars en camping avec un véhicule électrique, mettons, tu as une petite autonomie électrique que tu peux rouler avec ton véhicule. Puis si les systèmes sont bien montés, ce qui est le cas actuellement, là, ils vont te dire, OK, ben là, il faut que j'arrête de te donner du courant parce que la prochaine borne est dans tel nombre de kilomètres. Et théoriquement, si je continue, je vais manquer de kilomètres pour me rendre à la borne. Fait que j'arrête cela, puis on part se charger ensemble.
De préférence, se fier sur le calcul l'été et non l'hiver.
De préférence. Mais de toute façon, le véhicule s'adapte théoriquement. Là. Fait que le véhicule s'adapte selon l'énergie qu'il va perdre, puis la vitesse qu'il va perdre sur son énergie aussi.
Puis avec
là.
Le degré qu'il fait extérieur.
Ouais, exact. Oui, parce que lui va voir un peu l'énergie qu'il va donner, parce qu'en voyant que la batterie va chuter plus rapidement, par exemple en hiver, il va arrêter plus tôt de donner du jus pour être sûr et certain d'être capable d'aller en chercher d'autres si jamais on a besoin. Bref, ces véhicules-là ont, au contraire, je trouve, des belles possibilités. Tu sais, on voit des véhicules hors route, là, il y a des constructeurs qui commencent à miser beaucoup sur le côté hors route avec leur véhicule électrique pour dire... Dans le fond, tu peux partir faire une trail avec ton véhicule, là, puis t'alimenter avec ton jus de batterie que tu as là-dedans. Comme tu veux, on va t'installer des espèces de panneaux solaires pour charger ton véicule en même temps quand tu es dans le bois. Tu vas développer une grosse autonomie avec ça. Mais tu sais, même quand on amène ce genre d'argumentaire-là, à part les pros de la science, les pros de la technologie, les gens qui achètent déjà des gadgets, bonne chance pour enlever un volant d'un Wrangler à quelqu'un qui aime un Wrangler. Là,
mais ça prend des rêveurs. T'sais, moi, j'aimais entendre le gars qui m'expliquait de quelle façon Hydro-Québec allait faire une grosse batterie géante avec tous les propriétaires de véhicules électriques. Mais tu l'as dit, c'est un step supplémentaire d'essayer de convaincre un gars en disant « Regarde, on va prendre l'énergie dans ta batterie alors que toi, tu te poses des questions si tu vas en avoir assez pour ta journée. » Je ne sais pas comment ça va fonctionner.
Mais c'est encourageant. Puis moi, je suis dans l'équipe. Ouais. Là, à un moment donné, je l'ai déjà dit à ce micro-là, mais moi, j'aime l'automobile. Puis je vais l'aimer peu importe dans la formule qu'elle va avoir. Tu sais, j'ai mon collègue Pierre Michaud qui est allé essayer le Hyundai Ioniq 5N, l'édition de course de la gang des Ioniq 5. L'édition N pour le Nürburgring, là, qui est l'espèce de grosse course allemande où est-ce que les constructeurs mettent leur véhicule à l'essai en allemand pour tester leur rapidité. Puis c'est un peu comme le benchmark de l'industrie. Quand ton véhicule score bien au Nürburgring, là, tu sais que tu as un véhicule qui va vite. Puis la division N de Hyundai, ils ont d'autres produits à essence qu'on connaît très bien, comme le Kona, l'Elantra N, on a le Veloster aussi à l'époque. Et là, on a fait le Ioniq 5N. On a mis des bruits à l'intérieur de voitures à essence. Quand tu conduis, là, puis tu as même des palettes à l'arrière du volant pour changer de vitesse. Mais il n'y en a pas, là. C'est un véhicule électrique, ça n'a pas de vitesse. Là. Mais c'est vraiment pour donner un feeling de conduite que, tu sais, Pierre est sorti de cet essai-là flabbergasté. Je ne l'ai pas encore essayé, je n'ai pas eu la chance de l'essayer. J'aimerais beaucoup ça, l'essayer le Ioniq 5N, parce que je suis curieux de voir à quel point on est capable de bluffer le monde. Il y a des gens, tu leur disais pas que c'est une voiture électrique, pour vrai, je pense qu'ils ne le sauraient pas.
Ben, sur l'accélération, tu le vois dessus.
Ah, tu le vis, là, c'est incroyable. Tu sais, moi, j'ai chauffé le EV6 GT, ouais, qui était l'édition un peu comme Kia du Ioniq 5N, mais il y a moins ce côté-là, bluffage de son, de bruit, puis un peu de trichage, si tu veux. Là. Mais c'était quand même impressionnant. J'avais chauffé ça sur une piste à Vegas, là. Écoute, on driftait avec des pilotes professionnels, là, mais c'est impressionnant. Là. C'est un VUS là, qui couche ça à côté, mon gars. Là. Ça rentre à des vitesses de fou dans les courbes, dans un angle d'attaque qui n'a pas de bon sens, que j'aurais jamais voulu prendre avec un autre véhicule. Là, c'était impressionnant de les voir aller, ces voitures-là. Puis je me dis, ben, il y a de l'espoir quand même pour les amateurs de voitures. Puis maintenant, il faut l'embrasser, là, cette espèce de transition-là. Ça ne sert à rien d'être juste en les bras croisés, fâchés. Par contre, il faut qu'on y aille dans le temps que ça prend. Puis ça, c'est une affaire que je trouve qui, des fois, manque un peu de respect envers les gens. Il faut qu'on prenne prennent le temps de faire cette transition.
Oui, puis les gens aussi doivent prendre leur gaz égal. Je te raconte une anecdote, puis j'espère que Max Dubois de CA Québec écoute pas. Moi, Max Dubois de CA Québec, je l'adore. Mm. OK? Puis quand il vient me parler des trucs de CA Québec, j'aime bien ça. Puis là, il était content de me dire, Yann, je m'en vais au salon du véhicule électrique de Montréal. Je dis, parfait, je dis, prends-moi des photos des nouveautés, envoie-moi ça, je vais mettre ça sur mes réseaux sociaux. Hey, man! J'avais jamais calculé la haine que les gens pouvaient avoir envers les véhicules électriques. Puis les gens ont tenu à me spécifier que les véhicules électriques, à leurs yeux, à eux, c'était de la crise de marde. Il y avait beaucoup de violence dans leurs propos. Puis là, j'étais là, hey, qu'est-ce que je fais? T'sais, je limite-tu les commentaires en dessous de la publication des véhicules que Max a mis? Moi, je suis intéressé par ça. Je m'en achèterai pas. Ça va être un hybride que je vais m'acheter. Mais je suis quand même intéressé par les nouveautés. Mais de voir la haine que certaines personnes ont envers ces véhicules-là, je me dis, c'est-tu justifié à ce point-là ou bien les gens sont au bout de leur chaîne?
Puis des fois, j'ai le feeling que les gens n'ont pas de la haine tant envers le produit que de la manière qu'on le fait. On pousse tellement fort dans la bouche des gens cette espèce de transition-là de voiture électrique que j'ai l'impression que les gens sont haineux plus de la manière qu'on essaie de faire cette transition-là que le produit final. Quand tu t'assois dans un véhicule électrique et que tu l'essayes pour la première fois, c'est dur de ne pas aimer ça. Ouais. Honnêtement, là, ça roule doux, ça roule fort, il y a de l'accélération. Souvent, c'est des voitures qui sont extrêmement équipées. Tu as un niveau de confort qui est très relevé aussi. C'est dur de ne pas aimer ça. Mais tu sais, honnêtement, quand je regarde, moi, dès que je fais une publication par rapport à la voiture électrique, là, c'est Hellman's versus Miracle Whip. Là. C'est la guerre des commentaires.
Ben oui, c'est ça.
C'est la guerre complète.
Puis là, tu dis, tu sais, tout le monde a le droit à son opinion, mais là, quand ça dégénère, c'est vraiment des commentaires qui sont hyper haineux. Tu dis, attends un peu, là. C'est parce que là, ça peut me retomber sur le dos, moi,
ouais, il faut faire attention. Puis soyez pas si haineux que ça. Essayez-en avant de crier après les voitures électriques. Ouais.
Mais votre job est pas facile. T'sais. Votre job, c'est de donner votre opinion sur les véhicules que vous essayez. Puis là, ben, de l'autre côté, t'as quelqu'un qui a jamais essayé ce véhicule-là, qui te dit « Sam, ce véhicule-là, c'est de la mort!
Ouais. »
Ils l'ont jamais essayé.
Ouais, je sais.
Ils l'ont jamais essayé.
Je sais, mais le but, c'est de le faire pour les bonnes personnes, dans le fond. Là, ouais. Tu le fais pour les bonnes personnes. Mais moi, ce que je me bats pour vous, puis je vous le jure, je vais le faire jusqu'à temps que je peux continuer à le faire, mais je veux un char électrique abordable. Puis ça, on l'a pas encore.
On l'aura peut-être un jour.
Ben, j'y crois, je veux y croire, mais pour l'instant, j'y crois pas. Fait, faut le voir pour le croire.
Hey, je voulais te parler d'un véhicule que j'ai essayé cette semaine chez Bernier Auto. C'est un véhicule usagé. Il a genre 65 000 kilos, donc il est encore neuf. C'est le Kia Sorento. Moi, chez nous, j'ai eu un Kia très longtemps. C'était le véhicule familial. Puis, ce qui m'impressionnait de Kia avec les années, Sam, c'est vraiment qu'il s'améliorait année après année. Mm-hmm. Puis, la finition, souvent, tu sais, c'était des véhicules qui étaient tout... Tu sais, c'était pas des véhicules qui arrivaient et tu disais, t'as peu, là, la vitre, es-tu encore vite à bras, là, tu sais, pour l'ouvrir, ouais. La fermer? Ouais. Tout c'était full équipe, j'adorais. C'était la première fois que j'essayais un Kia Sorento X-Line. C'était un 2021.
Ouais.
Bleu, il est de toute beauté, honnêtement. Là. Je l'ai essayé pendant 2 jours. Pis ça m'a rappelé le bonheur que j'avais de conduire le fameux Kia que j'avais dans le temps. Puis ce véhicule-là, sérieux, c'est un beau véhicule familial. Est-ce qu'il est considéré comme un SUV?
Oui, c'est un VUS. Oh, ouais. c'est un VUS. Puis même que maintenant, il est seulement 5 passagers, mais dans l'ancienne génération, il était 7 passagers dans certaines options qu'on avait là.
Mais je pense que dans le 2021, tu avais 2 bancs. Parce que moi, le véhicule que j'ai essayé, je pense que les 2 bancs derrière, là,
ouais.
Ou le coffre,
ouais.
Je pense qu'il était couché.
Ça se peut qu'il soit 7 passagers en 2021, mais de mémoire, quand il y avait
parce
sorti...
Parce qu'ils me disent 5 places ici, là, mais ouais. Écoute, peut-être que j'ai mal regardé, mais cela dit, j'ai été agréablement surpris par ça. L'aide à la conduite,
ouais.
Aussi...
En 2021, il faisait en 7 passagers, effectivement, oui.
Il faisait en 7 ouais, passagers. C'est ça, c'est un 7 passagers qu'il y a de disponible chez Bernier Auto. Ça m'a surpris, parce que je pensais pas aimer autant ça. Tellement que je me dis, écoute, dans les prochaines années, peut-être que je vais aller vers ce véhicule-là, plus de type familial.
Oui.
Je l'ai trouvé tout à fait adorable. Il y a la seule affaire que je voulais te poser comme question, peut-être que tu me diras qu'est-ce que tu penses de ce véhicule-là, c'est le bas des portes. Il est comme en plastique.
Les polymères, oui, les genres de plastique polymère qu'on met dans les coins. Ouais.
Puis peut-être que c'est parce que je suis pas habitué, mais je me dis, à chaque fois que j'ouvrais la porte, je me dis, ouais, ça me semble que c'est pas fini.
C'est voulu, le X-Line, parce qu'on veut donner un petit look un peu plus aventureux. Puis souvent, mettons, quand tu regardes un Subaru Crosstrek, c'est justement des véhicules qui ont ce genre de polymère-là dans le bas des portes pour donner... c'est comme des pièces qui sont moins à risque de briser. Mettons que tu fais du hors-route, t'as okay. une roche, ils plieront pas comme la tôle.
Okay. Mais ça a été mon premier réflexe.
C'est fait pour ça. C'est fait
l'hiver, comme... quand il fait moins 20, ça pète pas facilement.
Non, non, exact. Okay. C'est vraiment fait pour ça. C'est fait pour un look un peu plus aventureux, si tu veux. Là. C'est aussi plus rigide. Mais à la fois, ça a moins de risque de briser que de la tôle. Fait que, mettons, un véhicule qui est complètement en tôle tout autour du véhicule, ben, quand mettons, tu vas faire de la trail ou tu vas aller te promener dans un chemin de zec, la roche qui va voler sur ton bas de caisse pourrait créer des petites pocs, là, des pocs à travers ton bas de caisse, tandis que tu places comme ça, ça va rebondir simplement.
Fait que c'est l'idéal.
Ouais, exact. C'est comme fait pour ça. Mais si, mettons, t'avais pris une édition qui n'était pas X-Line, t'aurais pas eu ce même genre de fini-là.
OK.
Fait que c'est vraiment comme l'X-Line qui était avec ça.
Mais je le trouve plus beau que les autres.
Ah oui, je suis d'accord. Il y a un petit look là, vraiment sympathique. Puis ce que j'aime aussi de l'offre globale de Kia, c'est que je trouve que quand tu achètes ce produit-là, au bout de la ligne, tu as quand même un très bon rendu final. Ouais. Tu as quand même une garantie qui est efficace sur ce produit-là aussi. Tu as un comportement routier qui est très noble, honnêtement. Là. Je trouve que ça se conduit très bien. Je pense que mon seul petit pépin qui me désole un peu, c'est la transmission à double embrayage qu'on met, qui est une transmission 8 à double embrayage, un peu saccadée. Je trouve saccadé.
Le 0 au 100, il est long.
Puis c'est saccadé. Dans le sens que, tu sais, quand les transmissions embarquent, ça donne des coups. On dirait que t'es comme, c'est quoi qui donne des coups de même? C'est supposé être souple. C'est supposé être un peu plus souple en accélération, justement. Là.
Okay.
Puis t'es supposé avoir moins de sentiments de rigide. Là. C'est supposé être un petit peu plus amical au niveau de l'accélération, ce que t'as pas. Puis pourtant, t'as quand même un moteur 2,5 litres qui développe 281 chevaux puis 311 livres-pieds de couple, ce qui est énorme quand même pour cette catégorie-là. Mais on conserve toujours cette double embrayage. Je pense qu'on serait mieux servi avec une automatique régulière à 8 vitesses. Et peut-être que les délais de réponse seraient un petit peu plus élevés, mais ça serait moins saccadé. On aurait moins de sentiments rigides autour. Là.
Puis les modes de conduite là, dans le Kia Sorento, j'ai apprécié aussi. Tu as la conduite sport, tu as la conduite confort, tu as la conduite économe. Ça, conduite économe, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que ça fait de plus?
Ça, il faut faire attention avec ces modes de conduite-là parce que souvent, puis ça m'arrive souvent d'embarquer dans des véhicules d'amis là, qui ont ces modes de conduite-là, puis le véhicule est en mode éco. Automatiquement, tu rentres dans le char, la personne roule sur le mode éco en se disant, mais moi, je trouve de l'argent, tu sais, il consomme moins de gaz comme ça, mon véhicule. À vrai dire, ces modes de conduite-là ont comme fâcheuse habitude de changer le comportement routier d'un véhicule. Quand tu roules en mode normal, ou même qu'il existe certains produits qui vont avoir des modes, comme chez Kia, dans le mode smart qui existe, là, le mode smart qui va déterminer quel genre de mode de conduite tu devrais être avec le style de conduite que tu as. Quand mettons, tu pèses full sur le gaz, tu es en train de faire une accélération, tu as une conduite dynamique, il va se mettre comme automatiquement en mode sport.
Ah, c'est un sportif.
Exactement. T'sais. Mais après ça, il va changer le mode selon l'état que tu conduis.
Ça, c'est pas... un pépin.
Exactement. Le mode éco, c'est un mode qui va juste s'assurer de faire des plus longs changements de vitesse. Fait que d'attendre un peu plus avant de faire les changements de vitesse. Puis il va comme donner un peu moins de pushing au véhicule, si tu veux. Il va pas essayer de travailler pour trouver le meilleur rapport puissance. Il va trouver le meilleur rapport économie de carburant. Mais l'affaire, c'est que ça, mettons, tu es en conduite, tu fais le parc de Laurentides. Tu as une route qui est montagneuse. Mais ce mode de conduite-là va tellement prendre du temps à changer ta vitesse que quand tu es rendu dans le milieu de la côte puis que tu as perdu 10 km, il va changer trois vitesses d'une shot puis il va te gonner ça au fond pour ramasser la vitesse que tu as perdue. Mais dans le fond, ça aurait été beaucoup plus économique de juste garder la même vitesse ou de changer plus rapidement la vitesse pour mieux prendre l'allant dans la côte. Donc souvent, c'est des modes de conduite qui sont bons quand on fait exemple Québec-Montréal, qui est une route qui est plus longue, qui est plate, il n'y a pas beaucoup de côte, c'est sur le chemin plat. Et souvent, dans ces modes de conduite-là, là, on va aller en tirer un bénéfice d'économie de carburant. Moi, tant qu'à ça, j'aime mieux conduire sur le mode normal, pour être sûr et certain que peut-être que c'est un petit peu moins économique dans certains scénarios, mais au moins, dans plusieurs des scénarios, vous allez être plus économique que si vous le roulez sur le mode éco. Bon, fait que le mode éco, il est bon, mais à bon escient.
Mais bref, le petit Sorento X-Line, je le trouve beau. Très sympa.
C'est spacieux
aussi.
Je trouve ça très spacieux. Oui. C'est très grand comme véhicule.
Moi, je suis un gars qui taponne beaucoup sur la radio, bien entendu. Des fois, je sentais que j'avais pas le bras assez long.
Oui, c'est ça, il est grand. Hein? Ouais,
c'est vraiment grand.
Il est loin, hein? Oui, c'est ça. Puis l'écran, quand même, aussi, curve un peu loin. Là,
ouais.
C'est quand même un peu loin, là, effectivement. Là, mais l'espace est bon. Là, ouais. Moi, je trouve vraiment que c'est un véhicule qui est ergonomique aussi. Tu as beaucoup d'espace, tu as du rangement aux bonnes places. Moi, j'ai quand même aimé mon essai routier de ça. Puis il faut savoir qu'en 2024, ils viennent de présenter là, un refresh de cette génération-là. C'est pas une nouvelle génération, là, c'est une mise à jour esthétique qu'on a fait. Là. On ramène principalement les mêmes genres de. C'est les mêmes mécaniques. On a changé quelques éléments un peu, mais tu sais, l'aménagement intérieur, l'intérieur, le rapport prix-équipement, encore une fois, au niveau du coût, là, ouais. C'est assez impressionnant. Là, c'est des véhicules qui vont coûter le même prix que bien d'autres véhicules sur le marché, mais qui arrivent avec une tonne d'équipement.
Mais
comme
Kia, c'est tellement implanté vite en Amérique du Nord.
Non, mais surtout au Canada.
Vitesse de la lumière.
Oui, puis Hyundai aussi, là, tant qu'à moi, là, c'est les deux un peu les frères cosmiques. Ils travaillent ensemble, puis il aurait dit Hyundai qui possède Kia. Là, mais les deux autres entreprises nous disent qu'ils travaillent vraiment séparément, là, comme s'ils ne se parlaient jamais, mais non. Ils partagent les mêmes mécaniques dans tous leurs véhicules.
Ça change les technologies aussi.
À 100%. Mais tu sais, ça reste qu'on offre du choix. T'sais, on a plein de versions, on a plein de motorisations disponibles. Tu n'as pas juste une recette. T'sais, des fois, tu vas dans les constructeurs, tu es comme, c'est ça que j'ai. Mets les mags noirs, ou on met le toit noir, ou on met du cuir en dedans, mais c'est le même produit. Dans ce cas-là, tu peux vraiment aller chercher une édition avec un look un petit peu plus urbain, un look un peu plus hors-route avec le polymère qu'on va avoir justement pour le côté X-Line, se promener dans les chemins de zec et compagnie. On a des différents moteurs, un 2.5 litre turbo, un 2.5 turbo. On a une version qui est hybride branchable. Fait qu'on a quand même une panoplie d'options qui sont devant nous. Puis ça, je pense que ça fait en sorte que ce produit-là devient compétent et pertinent. Quand je parle de Hyundai surtout, là, Hyundai ont ce genre de formule-là qui a le même genre de formule aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est des produits qui sont intéressants pour ça.
OK. Hey, on a plein d'autres sujets à jaser, toi et moi. La Mercedes-Benz J-Class, ça vaut combien, ça?
Très cher.
How much?
Très, très cher. Parce que la J-Class, tu la connais, là, j'imagine. Oui. Là, c'est l'espèce de camion carré qu'on voit dans les films russes. Là, nous autres, les gentils américains sont en Suburban noir, puis les vilains russes sont dans un J-Class noir. Là.
Ouais, j'ai croisé un gars qui avait un... ça se peut-tu J-Class Brabus?
Oui, oui, un Brabus.
C'est,
oui,
c'est 850 000 pièces.
Oui, oui, mais ça, c'est sur mesure. Là. Ça, c'est quelque chose, un Brabus. Là. C'est gros, oui, c'est débile.
OK, mais ça coûte un rein.
Ouais, les yeux que tu as sont excellents présentement, mais oui, ça vaut cher. Faut savoir que le G-Class, c'est quand même le produit Mercedes qui a la plus longue longévité de l'histoire de Mercedes. C'est-à-dire, depuis qu'on l'a sorti, on utilise encore des composants de la première génération. C'est un véhicule qui est extrêmement axé sur le hors-route. C'est le produit hors-route de Mercedes. C'est un peu comme un Wrangler de luxe. Tu sais, t'es vraiment un 4x4, des suspensions travaillées en route. C'est un cube de luxe pour aller dans le bois. C'est littéralement ça. Et là, on vient de présenter une nouvelle génération de ce produit-là qui revient avec des motorisations thermiques. Donc, pour les amateurs du produit, ça existe encore. Puis on a aussi maintenant une édition électrique qui a été présentée. C'est le premier G-Class électrique qui a été présenté. Quand même assez intéressant au niveau des spécifications. Là, c'est un véhicule qui, premièrement, va être impressionnant au niveau du hors-route, du moins selon Mercedes. J'ai hâte de voir. Je m'en vais l'essayer dans 3 jours. Donc, je pars l'essayer. On va faire un essai sur route et hors-route.
OK.
Donc, j'ai hâte d'aller essayer ça.
C'est nice.
Ouais, ça va être une espèce de trip que j'ai jamais vécu encore. Là. Donc, je m'en vais en France essayer ça. Ça va être quelque chose de le fun. Et on parle quand même de 473 kilomètres de prévu selon Mercedes au niveau du plein de batterie. L'EPA n'est pas encore passé. L'EPA qui est la norme un peu plus nord-américaine que nous, on se fie pour savoir en hiver qu'est-ce qu'on peut s'attendre. On est plus autour de 400 kilomètres. Les prix ne sont pas encore présentés au niveau du Canada. Fait qu'on ne sait pas encore comment ça vaut chez nous. Mais en Europe, on sait qu'il se vend 142 621 euros. Donc, on ne peut pas faire la conversion directement parce que des fois, il y a des ensembles qu'on n'aura pas, il y a des trucs qu'on n'aura pas ici, mais très cher. Là. On est dans un véhicule qui est extrêmement dispendieux.
T'sais, puis le gars qui avait ce fameux Brabus-là, ce qu'il nous racontait, c'était pas quelqu'un qui était très timide, là. Il nous disait qu'il en commandait tout le temps comme 2-3 chaque année.
Honnêtement, c'est rare que tu achètes un Brabus et que tu es timide. Là. Ouais, généralement, tu veux faire du bruit. Là.
C'est... Écoute bien sa technique. Là. Des fois, quand il me parle de ça, ces gars-là, j'ai tout le temps le goût de me taper sur la tête en me disant « Moi, j'ai jamais rien compris de la vie. » Là. Il en commande 2-3 par année. Puis quand il reçoit, il n'y en a tellement pas qu'à la réception, le véhicule a pris de la valeur. Puis il y a des offres d'un peu partout au Canada ou même des États-Unis sur le véhicule qu'il a commandé. Puis il est capable de se faire du cash juste avec sa commande, Sam.
Ouais, je sais, je sais.
T'as un peu, là. Il a juste commandé. Bon, je sais pas s'il s'est fait financer, mais il a juste commandé le véhicule. Puis il se fait du cash en le recevant pour le vendre.
Ouais, ouais, mais c'est des. Mais si, faut vraiment comprendre une chose. Là, on parle de véhicules qui sont pas pour le commun des mortels. C'est des véhicules qui deviennent aussi des un peu des pièces de collection.
Merci de nous rappeler qui on est, Sam.
Ben, je me le rappelle à moi aussi. Hein. Je viens vous le dire. Là, j'ai zéro les moyens de m'acheter un bras. Brabus, jamais de la vie. Tu sais, Brabus, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, on n'aurait pas dire le mot, mais tu sais, Brabus, c'est un préparateur de véhicules.
Ouais.
C'est comme un modificateur de véhicules officiel de Mercedes-Benz. Fait que c'est pas Mercedes qui possède Brabus, théoriquement. Ils sont très partners, mettons, là. Mais eux vont préparer des véhicules Mercedes. Ils sont comme spécialisés dans le Mercedes. Fait que c'est comme si tu prends un véhicule qui, déjà, à la base, est assez hallucinant. Mettons, tu prends une version AMG. Mais la version AMG, ça, c'est comme le modificateur de véhicule de performance de Mercedes. Okay. C'est comme le maison. Eux autres, oui. Ils vont faire, on fait un véhicule de fou avec ça, gros moteur, grosse mécanique, c'est quelque chose qui va aller vite, c'est pour la piste, c'est comme le gros véhicule qui flash, c'est le AMG. Après ça, tu peux prendre ton AMG puis aller voir Brabus puis leur dire, maintenant, j'en veux une couche de plus. Je veux une couche de personnalisation de plus. Ce qui fait en sorte que ces véhicules-là, il y en a un dans le monde. Tu sais, le G-Class que ton ami ou ta personne que tu connais commande.
Ben, j'aimerais ça l'appeler mon ami, mais il veut pas.
OK, c'est bon, parce que la personne que tu connais, là, mais tu sais, c'est souvent, c'est des véhicules qui sont un dans le monde. Fait que la valeur de ce produit-là, c'est qu'elle ne perdra pas nécessairement. C'est des véhicules qui vont garder une valeur énorme dans le futur, qui vont pas déprécier, qui vont rester comme des pièces de collection. C'est un peu le même principe que si vous achetiez, je sais pas, une toile sur mesure d'un artiste, puis tu sais, cette toile-là, vous la mettez chez vous, vous la gardez chez vous, théoriquement, elle perdra pas de valeur, tu sais. Si elle est bien entretenue, puis que l'artiste continue de fleurir, puis d'être un artiste efficace, c'est un peu le même principe dans l'automobile avec des coûts astronomiques. Okay. C'est un peu ça qu'il faut voir.
Je comprends. J'ai un de mes chums, lui, je peux l'appeler un ami, là. Il a le gros modèle de Mercedes, je sais pas, c'est quatre portes. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est que quand il achète ce type de véhicule-là, il y a une entente avec le concessionnaire qui ne peut pas le revendre à l'intérieur d'un an ou deux ans. Je ne savais pas que ce type de contrat-là existait.
Oui, ça existe. Puis c'est pour un peu s'assurer que le marché ne devienne pas fou sur la surenchère. Parce que dans l'usager, on pourrait avoir après ça peut-être une espèce de rachat de véhicules qui se ferait justement. Puis si on commence à en importer trop de ces véhicules-là, il y aurait une dépréciation de la valeur du produit aussi. T'sais, plus il va en avoir, moins son véhicule va valoir cher. Fait qu'ils veulent comme régulariser, si tu veux, un peu le marché de l'usager pour être sûr que ça ne devienne pas des véhicules de « on flippe des autos, on en a tellement, on en commande plein ». Il y a comme des limites que les constructeurs et les concessionnaires vont avoir dans leur cours aussi, dans certaines classes, mettons dans la S-classe. C'est des produits qu'on ne va pas faire en quantité illimitée. Il va en avoir par année un certain nombre qui vont être faits. Okay. Les concessionnaires vont en avoir un certain nombre. Les concessionnaires qui ont tendance à en vendre plus en auront plus. Ceux qui en vendent moins en auront moins de prévus dans l'année, mais ils ne pourront pas dépasser théoriquement leur nombre de véhicules attendus.
Fait comme on est, ça. Sont-tu sur une autre planète?
100%. T'sais, mais c'est pour ça tantôt, je voulais pas insulter personne, hein, en disant pour le commun des mortels. C'est que,
ah, on fait partie de ça.
Là. 100%. Puis moi, c'est des affaires que tu te dis, on peut pas vivre ça à petite échelle. T'sais, nous autres, on achète un véhicule qui produit en masse.
Oui.
Puis de partout.
C'est pis... ça. Je sors du Best Buy, puis il y a eu 10 fois mon véhicule dans
le coin. C'est ça. T'sais, c'est un peu ça pareil. Pis, c'est
mais le mien, il y a un sambon que j'ai acheté chez Canadian Tire. Oui. Je sais que c'est lui, tandis qu'eux autres, quand ils achètent ce type de véhicule-là, il en a un aux Galeries de la Capitale, puis il sait exactement il est où son char. Mais je savais pas que ce type d'entente-là existait.
Le Cybertruck, qui était fâché après, d'ailleurs, c'était le même principe. Hein. Il y a encore ça, d'ailleurs. Là. Les gens qui l'ont acheté, là, les premières éditions, tu pouvais pas les revendre. De mémoire, c'est 6 mois, par contre, que Tesla a mis, mais tu as 6 mois ce que tu peux pas le vendre.
Okay.
Parce que le marché de l'usager est pété en feu.
Mais là, bon, je cherche le trouble un peu, là, ça te surprendra pas. Mais mettons que tu achètes ce véhicule-là, le fameux Mercedes, le 4 portes, de l'année, hyper sport, faut le monter. Tu passes une entente avec le concessionnaire à Québec ou avec le constructeur en général? Est-ce que tu pourrais prendre le concessionnaire à Québec, prendre ce char-là et aller le revendre en Ontario?
Théoriquement, c'est une entente qui est avec le concessionnaire.
Okay.
Ça se peut que, mettons, il y a une alliance qui se fait entre le fabricant et le concessionnaire aussi. Fait que souvent, mettons, peut-être que les deux se disent, nous, on désire comme régulariser notre marché. Souvent, c'est... souvent, puis ce que j'en comprends, c'est les concessionnaires qui veulent ça parce que eux, dans leur secteur de vente, ça pourrait venir jouer aussi d'impact de la vente d'un autre véhicule. Fait que, admettons que ton ami achète son auto, il la met à vendre après 6 mois d'utilisation, puis lui, il veut pas faire un flip de markup, il veut le vendre moins cher un peu juste parce qu'il est usagé. Tu sais, puis il se dit, je vais le vendre un petit peu moins cher. Mais là, ça pourrait peut-être faire perdre une vente à ce concessionnaire-là qui pourrait vendre un produit exclusif. Ouais. Fait qu'on est un peu là, tu sais.
Il me racontait même que son véhicule, juste en l'ayant, en le faisant pas rouler, devant le cas où il l'achète, il le faisait pas rouler, mais dans son garage, son véhicule prend de la valeur avec le temps. C'est-tu Maserati, le concessionnaire qu'on a à Québec?
Il y a Maserati qui est à... Mais il y a Lotus aussi, on a les deux maintenant. Il y a McLaren aussi, là, mais ils sont juste en bas ici.
Sur je parlais avec Sirois qui me parlait, qui me disait ben, la majorité des gens qui achètent ce type de véhicule-là, c'est des collectionneurs qui vont peut-être aller chercher une crème glacée le dimanche avec leur conjointe avec ce char-là, mais ils laissent dans le garage, ils prennent de la valeur puis ils font de l'argent avec ça.
C'est exactement ça. C'est...
Mais pourquoi moi, quand je sors du concessionnaire avec mon char, il perd de l'argent, mon char?
Parce qu'il y en a plein, partout, puis ils se vendent à l'usager. Tu vois-tu, c'est tout pour régulariser ça. Hein? C'est toi, ton char, tu le prends, là, il y en a d'autres, là, des Wrangler qui existent.
À cause de toi, je le sais que je suis pauvre, Sam.
Ben, moi aussi, tous les jours. Puis moi, imagine comment c'est cruel. Tous les jours, je m'informe, je lis là-dessus, puis je me dis, crime que j'ai pas d'argent.
Puis tu sais, tu vis un peu la même affaire que moi. Mais toi, tu, c'est, ta job, c'est d'être chroniqueur automobile. T'essayes plein de véhicules. Moi, avec Bernier en auto, je m'en vais chercher un véhicule une fois de temps en temps.
C'est super, c'est le fun.
Ben, c'est, j'adore ça parce que je découvre un monde que moi, je ne connaissais pas.
Je vois ça passer. T'as eu un Q7, je pense, il y a pas longtemps.
Mais, après, ouais. Ouais, mais après ça, j'embarque dans mon char et je suis un peu découragé. Calme, ouais. Je viens d'essayer toute une machine, mais tu sais, celle-là, le véhicule que je te parlais tantôt, le Kia, tu sais,
c'est pas si, là, t'es pas.
À chaque fois, le vendeur de chez Bernier Auto me dit, pis c'est celle-là. Sérieux, j'ai de la misère à les reporter.
Ben là, mais c'est pas si inaccessible non plus, là.
Non, je sais, mais.
T'as même un animateur que... connu de Québec, ouais, là. J'imagine, t'es capable d'acheter un Sorento X-Line.
Mais
là.
Mon problème, c'est que je tombe en amour à tous les jours.
Ah, ça, je comprends ce bout-là. Ça, je comprends ce bout-là.
Ah, une nouvelle moto qui sort. Ah, ouais. Je la veux. Ah,
okay. Oui, les motos de Saint-Saëns me travaillent. J'ai vendu le mien l'année passée. Puis là, ça me travaille. Là,
il faut se limiter. Mais ah, ouais. Quand on embarque dans ces véhicules-là, là, tu me parlais du Mercedes. On parlait du Mercedes Jeep Brabus, 850 000 piastres. Les Maserati, ça coûte un bon montant aussi. C'est un autre monde qu'on connaît pas. Puis, à quel, même si je sais que jamais j'achèterai ce type de véhicule-là, ben ça m'intéresse, moi, de voir comment ça se passe, ce marché-là. T'sais, moi, quand Sirois m'avait dit, ben les Maserati, c'est des collectionneurs, pas des gars qui vont utiliser tout le temps. Puis c'est le gros modèle de Maserati, pas le petit modèle, mais c'est vraiment le gros modèle.
Le MC12.
Le char de course.
Le MC12.
C'est ça?
Oui, Maserati MC12.
Toi, tu connais tout. Mais pas c'est tant ça. Que ça. Quand tu achètes ça, tu le laisses dans ton garage, tu vas chercher ta petite crème molle le dimanche avec ta blonde, puis après ça, tu t'en vas le reporter, puis tu vas voir que ça prend des milliers de dollars chaque année.
Oui, c'est des véhicules qui valent une certaine fortune. Ton ami, il a acheté ça quand, mettons, son Maserati? Je veux tout savoir. Là. C'est-tu récent ou.
Le Maserati, il n'a pas acheté de Maserati. Le gars de Brabus, lui, j'y ai parlé l'été passé, puis il en achetait à peu près 3 par année, okay, puis ouais. Il en revendait 2.
Parce que là, si c'est un ancien modèle, parce qu'une MC20, c'est le modèle récent de la Maserati que tu parles, tantôt l'espèce de modèle de course.
Ouais. C'est celui que j'ai vu au salon de l'auto, pas cette année, mais l'autre année d'avant.
C'est la MC20. Ça, okay. C'est le plus récent. La MC12, c'est comme la pièce de collection qui existe depuis super longtemps. Okay. C'est comme un peu pour suivre la lignée. Là. Mais dans tous les cas, vois-tu un MC12 de Maserati, ça a des valeurs aujourd'hui qui n'ont plus de bon sens. T'es rendu dans une pièce de collection, tu touches même pas au char, tu n'embarques même pas dedans. T'achètes ça, là, tu le mets dans un salon quelque part, puis tu le regardes. Là,
non, tu le mets dans ton salon, puis t'éloignes les enfants. Aïe. En fait, tu donnes tes enfants, puis tu laisses le véhicule dans ton salon.
Rendu là, t'as les moyens de donner tes enfants.
Mais ça doit être particulier, pareil. À chaque fois que tu sors de chez vous, t'as une émotion en regardant ton char.
Aïe, je sais pas, moi, j'aime conduire. Puis c'est drôle parce que j'ai toujours été un rêveur de voitures, mais j'ai toujours rêvé des voitures que je pouvais m'acheter. Toujours.
OK.
Même quand j'étais ticu, j'avais un poster chez nous de Nissan 350Z. Tu sais, c'est abordable. Je suis capable de m'acheter ça maintenant dans ma vie. Là. C'est pas inaccessible, mettons. Tu sais, il y a des gens qui avaient des Lamborghini ou des Ferrari. J'aime ces produits-là, mais donnez-moi ça à quelqu'un. Tu sais, je peux aller faire un tour avec, ça va me faire plaisir. Mais je sais que je suis pas parti, en tout cas, du moins, pour avoir les moyens de m'acheter ce genre de voiture exotique-là à des chiffres qui n'ont pas de bon sens.
On prend des Lotomax.
Bien, ça prend des Lotomax, mais où ça me prend aussi juste d'être conscient que j'aurais pas ces salaires-là, fait que je vais triper sur des modèles que je suis capable de m'acheter.
Des fois, je vais me promener, je m'entraîne, l'ancien gym Le Chalet, qui est l'ancien Palladium,
ouais.
Qui est devenu le gym, le Tonic Gym. Il y a la gang de Roulé Passion.
Ouais.
Ils ont tous les gros véhicules exotiques. Je vais toujours faire une petite run dans le stationnement, je regarde ça, puis quel beau véhicule.
Ah ouais,
ça doit être la fun d'avoir ça tous les jours. Hey, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, on va faire une courte pause, puis on va parler quelques minutes tout de suite après la pause, mon ami. On revient. Électrique, tantôt en début d'émission, on va peut-être parler des fameuses entreprises de batteries électriques. Pierre Fitzgibbon semble être extrêmement intéressé par la filiale électrique. Il y a eu des ententes qui se sont passées avec le gouvernement pour que des entreprises puissent venir s'installer ici. En raison du manque d'électricité, Pierre Fitzgibbon a dû faire des choix, de ce qu'on comprend. Là, Honda, semblerait qu'il y a eu des discussions et finalement, ben, Honda ne s'établira pas au Québec. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, selon toi?
Mais là, ça va dépendre de comment qu'on voit les choses. Là. Provincialement parlant, ou peut-être, mais au niveau du pays, non. Là. Au niveau du Canada, c'est une bonne nouvelle. Au moins, ils sont chez nous. Ils ne sont pas aux États-Unis. Ils auraient pu y aller aux États-Unis. Il faut savoir aussi qu'Honda est quand même implanté en Ontario depuis 1986 à Alliston. Ils ont construit la Civic, la CRV, Acura, MDX aussi, ou ZDX. Fait que, ils ont quand même construit quelques véhicules ici au Canada. Puis j'ai comme l'impression que c'était un choix naturel de rester en Ontario, parce que là, l'idée, c'est qu'on va construire cette méga usine de batterie-là à côté de l'ancienne usine de Alliston qui était déjà là. Fait que, tu sais, c'est les emplois qui, sur place, vont être conservés, puis on va juste modifier l'usine actuelle pour qu'elle puisse répondre aux nouveaux besoins électriques que Honda va avoir, en construisant aussi cette nouvelle méga usine-là de construction de batteries. Fait que, quoi, ça dépend comment on vire ça de bord. Là, si on a la fibre provinciale, c'est plate qu'on n'ait pas eu ça, parce qu'effectivement, c'est un extrêmement beau contrat.
Ben, c'est surtout des bons emplois. Là.
C'est des excellents emplois, puis ça prouve aussi quand même qu'on a une qualité de fabrication ici, dans le sens que Honda est un constructeur très conservateur. On va se le dire, là, Honda, c'est un constructeur qui est conservateur. Dans leur alignement, ça a été long avant d'avoir un véhicule électrique. On a le Prologue qui arrive. C'est un véhicule qui est basé sur une technologie de GM. Ça a été super long avant de l'avoir sur le marché, dans le sens que tout le monde en a quasiment à part Honda. Ils sont plutôt conservateurs parce qu'ils veulent pas faire quelque chose qui ne marchera pas. Honda a un peu cette philosophie-là. Au lieu de réparer des erreurs, on n'en fera pas en partant. Puis on a de la misère à accepter leurs erreurs. Ça a été long, l'histoire de la peinture. Là. Puis on a eu des recours collectifs et tout. Là.
Ouais.
Fait que c'est pas une philosophie qui est parfaite, mais au niveau, par contre, de cette décision-là de rester chez nous, ça prouve quelque chose au moins qu'on a une capacité de production au Canada qui est intéressante. Assurément que le deal qu'on a fait de donner 5 milliards pour qu'ils puissent s'établir chez nous a aidé probablement dans ça. Là. Et j'imagine aussi qu'on ne connaît pas tous les aléas de ce contrat-là, de cette entente-là. Mais clairement, je pense que au niveau pays, c'est une bonne nouvelle. Provincial, c'est dommage, mais en même temps, je trouve ça naturel. Je trouve que ça aurait été un peu tordu d'aller enlever une usine en Ontario qui est déjà implantée là. Il faut savoir, les usines de constructeurs en Ontario, pour avoir visité elle de Oshawa, de GM, il y a des quartiers qui vivent autour là, parce que c'est tous des travailleurs de l'usine. Oshawa existe à cause de l'usine automobile. Là,
comme Détroit dans le temps.
Exact. Ou Alma au Saguenay avec Rio Tinto à l'époque. C'est des entreprises qui ont fait vivre des gens pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ça ferait drôle, je trouve, de fermer une usine en Ontario pour la ramener au Québec. Je pense que Québec et Ontario ont dû s'entendre sur celle-là en se disant « Celle-là, c'est la vôtre. » Comme nous autres, on a gagné Ford de mémoire. Là.
Oui.
Fait que, tu sais, il y a Ford qui s'en vient. Fait que, tu sais, je pense qu'on... On joue fair play dans ce jeu-là. Puis dans le fond, ben, pour nous, d'avoir Honda qui reste chez nous, qui ne va pas aux États-Unis, je pense que c'est une chose qui est très positive. Là. C'est quand même 1000 nouveaux emplois qu'on va acheter, des bons jobs, 4200 emplois qui vont rester, qui auraient pu être coupés si on avait fait un déménagement ou quoi que ce soit. T'sais, c'est une entente à 15 milliards, là. C'est gros. Mais qu'est-ce qui est le fun dans cette entente-là, c'est que c'est pas juste une usine d'assemblage. On produit de la batterie ici, on va la récupérer aussi. Toutes les matières qui sont dangereuses à l'intérieur des batteries, on va aussi installer d'autres installations dans cette entente-là de 15 milliards. Elle ne sera pas nécessairement aux mêmes places que la fabrication de la batterie et l'assemblage des véhicules. On va avoir d'autres bâtiments connexes. Je ne sais pas, ils vont être où et quand, comment. Là, ça, c'est pas très clair. Mais on sait que ça fait partie de l'entente d'avoir des usines de récupération des matériaux comme... C'est la cadotte et les prestateurs qu'on va avoir dans les batteries. C'est des matériaux qui sont nocifs. Puis Honda veut vraiment investir sur la récupération de ceux-ci. Fait que moi, pour vrai, à date, j'en vois juste une bonne nouvelle. Puis, tu sais, faut pas être fâché de ça, là, dans le sens qu'on a gagné contre les États-Unis quelque chose d'intéressant. Après ça, on parle encore de voitures électriques, là. Puis, j'imagine qu'il y a des gens qui vont me dire que c'est de la cochonnerie, là. Mais au bout de la ligne, je trouve quand même que, tu sais, justement, l'usine de cadotte puis de séparateur qu'on va avoir, tu sais, ça reste que c'est un premier pas dans la récupération de ces batteries-là. C'est une entente d'un constructeur qui met beaucoup d'argent dans ça. Puis, la fameuse récupération de ces batteries-là, c'est un des enjeux qu'on a le plus à comprendre actuellement pour la vie de ces voitures électriques-là. Leur impact sur l'environnement. T'sais. Si on est capable de réellement bien les récupérer, ces batteries-là, ben là, on vient d'enlever une grosse épine dans le pied actuel de jeter ces batteries-là qui coûtent cher à faire.
Ouais.
Si on les récupère bien, pour les capable d'en reproduire d'autres, puis qu'on offre, ben là, crème, ça va bien. Dans le fond, je trouve que c'est une belle nouvelle, moi.
Ben oui. La Prologue, est-ce que tu l'as essayé?
Non, j'ai pas pu l'essayer. C'est mon collègue Samuel Lessard qui l'a essayé chez RPM. Qui a jugé d'ailleurs que c'était un produit qui ressemblait beaucoup à ce que GM fait là, d'ailleurs, là, parce que GM, on a vraiment partagé la plateforme de GM pour le faire. Fait que tu sais, ça veut dire qu'on a pris beaucoup de technologies américaines, on y a implanté des éléments japonais à l'intérieur avec la mentalité et comme idée japonaise à l'intérieur de Honda, mais ça reste qu'au bout de la ligne, ce que Samuel disait, c'est que ça reste un produit qui ressemble un peu trop à l'origine. T'sais, ça ressemble un peu trop à un produit GM. On n'a quand même pas réussi à complètement le métamorphoser pour que ça ne sente pas le GM à l'intérieur, mettons. T'sais, peut-être à l'intérieur, le look, l'habitacle, mais la conduite, les spécifications techniques, on le sait que c'est un produit qui est basé sur la technologie du Blazer EV chez Chevrolet. On le sait que c'est une plateforme qui est extrêmement utilisée chez GM actuellement dans plein de produits. Donc, on n'est pas surpris de ce produit-là, dans le sens qu'il n'est pas venu changer la donne. Il est venu s'ajouter dans un portfolio de VUS électriques qui est déjà assez bien garni. Mais au moins, c'est une première approche, encore une fois, assez conservateur de la part de Honda sur une technologie qui, jusqu'à présent, va bien.
Oui.
Fait que c'est pas tant une erreur.
Non. Hey, si j'avais à te, mettons, si j'avais à te demander, ça a été quoi le véhicule que tu as essayé, que tu as fait le plus triper cette année?
En 2023, mettons.
Ben, depuis le début de l'année, mettons. Parce qu'on va se rencontrer dans les prochaines semaines.
Hein? Oui, parce que là, j'en ai un, parce qu'en 2023, j'ai essayé mes véhicules coup de cœur, je pense, à vie. Là, mais 2024, je vais t'en trouver un. Okay, on va faire un peu le ménage dans mes idées, là, parce que j'ai eu plein de choses. Mais j'ai essayé un véhicule que j'avais pas tant d'attente, parce que... je me dis, ouais, ce véhicule-là, OK, je vais l'essayer, là, mais je m'attends un peu à ce que ça va être. Puis en début février, j'ai chauffé le Jetta GLI, 40e anniversaire, le Volkswagen Jetta GLI. J'avais pas d'attente parce que je me dis, oui, ça va être un véhicule comme avec un moteur de 2 litres turbo, je le connais. Puis là, il était manuel. Bon, j'étais comme, OK, cool, ça va faire du bien. Un véhicule manuel dans une flotte de presse, c'est de plus en plus rare, il y en a de moins en moins. Mais je m'attendais pas à avoir autant de plaisir. J'ai été surpris d'avoir autant de plaisir parce que la Jetta s'est extrêmement américanisée dans les dernières années. Elle a vraiment perdu l'identité très allemande. Là, on est rendu dans un véhicule nord-américain, là, purement. C'est construit au Mexique. J'avais un petit peu de réticence avec le fait que les voitures sportives de Volkswagen sont généralement construites à Wolfsburg, en Allemagne, dans l'usine originale de Volkswagen, comme la GTI l'est encore, comme la Golf R l'est encore aussi. Fait que, on dirait que j'avais un peu des préjugés envers ce produit-là. Je suis arrivé en me disant, je sais pas à quel point je vais trouver ça le fun, et j'ai eu du plaisir avec ça.
Ouais.
Non, mais je me casquette en envers, là, j'avais envie d'avoir du fun, là, tu sais.
Tu retournais à 20 ans.
D'une shot, instantané, là, quand j'ai eu vraiment du plaisir avec ça, qui reste un véhicule quand même assez abordable, 34 000 $ pour une version sportive, là, tu sais, vraiment avec un bon moteur à l'avant, une transmission qui est efficace aussi, beaucoup d'espace à l'intérieur. Je trouvais que ça devenait une voiture de tous les jours, sportive, vraiment accessible.
As-tu gagné des prix?
Pas grand-chose, là. Non. C'est pas ça un produit que les gens vont référer non plus à la base.
Au niveau de l'espace de rangement, ça a l'air de quoi?
C'est une berline, hein, fait qu'on a vraiment un gros coffre à l'arrière. Si vous voulez avoir un hatchback, il ne se fait pas en hatchback, il faut aller chercher la GTI.
Okay.
Mais l'espace intérieur, c'est très bien. Là, j'ai embarqué mon fils avec la bande bébé, des amis dans l'auto, j'ai eu aucun problème avec ça. Il y a un bon coffre à l'arrière aussi. Fait que c'est pour ça que je te dis, comme véhicule de tous les jours, donc quelqu'un qui cherche un petit plaisir de conduire à 34 000,
à 34 000,
je trouve
ça
que
bon
ça a vraiment de l'allure pour le fun que j'ai eu. T'sais. C'est pas parfait, c'est pas révolutionnaire non plus, dans le sens qu'on n'a pas changé une recette, mais j'ai été surpris parce qu'à la base, j'avais un préjugé. Fait que, on dirait que ça m'a fait du bien de plus avoir des préjugés puis de me dire, j'ai remis les clés, j'étais comme, c'était le fun. J'étais déçu. J'ai donné les clés, j'ai appelé mon ami qui vend des Vogue. Ça coûte ça, j'en voudrais peut-être un. Là, j'étais comme, c'est le fun. J'ai eu du plaisir avec ça.
OK, dans quelques jours, tu pars pour la France. Achale-nous pas avec ton bonheur. Achale-nous pas avec ton bonheur. Tu vas faire quoi déjà?
Chauffer le Mercedes G-Class.
G-Class.
Ouais, le nouveau. Puis d'ailleurs, toutes les impressions vont être disponibles sur rpmweb.ca.
Oui.
Là, dans le fond, Luc Olivier, mon collègue, est allé voir le produit. Donc lui, il s'est rendu en Autriche découvrir. Parce que le lancement est fait officiellement. Donc on a lancé le produit. Mais moi, je vais mettre à l'essai. Fait que là, je vais revenir avec des vidéos puis un essai routier de ce produit-là. C'est un premier contact qu'on appelle. Là. Fait que c'est pas un essai officiel comme on va vous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est pas, un premier contact. Fait qu'on l'essaye dans les conditions parfaites. On s'entend, là, ils nous amènent là parce qu'ils vont nous donner un circuit qui va être parfait pour le véhicule, puis on va l'essayer dans l'optimal de son potentiel. Mais ça va être le fun, surtout d'essayer la version électrique. J'ai hâte de mettre la version électrique en essai parce que c'est vraiment une grosse page qui se tourne sur ce VUS-là, dinosaure. Ça va faire un gros choc dans l'industrie, du moins dans le micro-climat des gens qui achètent les G-Class. Donc, j'ai hâte d'essayer ça, là, ça va être le fun.
Sinon, on te voit à télé ce dimanche?
Oui, dimanche, c'est ma première apparition RPM Plus, 11h sur les ondes de nouveau. Si ça vous tente d'écouter ça. Ben, si ça vous tente, là, moi,
ça me tente, mais je vais faire un avertissement aux gars, là. Faut pas que vos femmes voient Sam à télé parce que ça se peut qu'ils vous comparent. Pis...
Ah, franchement!
Ça sera pas facile, les gars. Écoutez pas ça dimanche avec vos blondes. Écoutez ça tout seul.
Franchement, moi, je vais me regarder à télé. Je vais être comme, oh, boy, c'était pas évident. Là.
Regarde. Je pense qu'à partir du moment où tu t'écoutes puis tu t'apprécies, c'est un problème. À partir du moment où tu te regardes puis tu t'apprécies,
c'est un autre problème. Oui, c'est ça, exactement. Oui.
Samuel Drablé-Michaud, un gros merci d'être passé. On t'écoute parce que t'es de passage souvent avec Denis Gravel et toute son équipe. Donc, on t'écoute dans Gravel dans le retour.
Yes.
Puis en espérant t'avoir dans Marceau Soir ou même Marceau le midi une fois de temps en temps.
Hey, ça serait le fun, vraiment.
Quand t'es disponible. Je souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de boulevard et on se reparle demain 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Ciao.
Merci. Bye-bye.